franceinter.fr.
Bonjour à tous. Du film, on dira juste que c'est une histoire d'amour. L'histoire d'une femme qui doit choisir entre deux hommes. L'un qui lui propose la sécurité, tandis que l'autre lui propose plutôt l'aventure. Mais c'est aussi l'histoire d'une famille juive à New York, ville adorée du cinéaste qui s'exprime cette semaine dans les colonnes de l'Express. Titre de cet article, dépressif heureux. Vous l'avez reconnu, Patricia?
Bah, évidemment, c'est Woody Allen.
Il s'agit de Woody Allen. Woody Allen, dont le nouveau film Café Society fera mercredi l'ouverture du Festival de Cannes. Et c'est donc à cette occasion que Stéphanie Chaillet est allée le rencontrer dans l'écrin de son studio fétiche new-yorkais. Une belle interview dans laquelle le cinéaste met à mal quelques rumeurs le concernant. Non, il n'est pas aussi névrosé qu'on le pense. Et il a une vie très normale. Non, il n'est pas du tout ce qu'on appelle un intello. Chez lui, il boit des bières devant des matchs de foot américain à la télé. Et à l'école, d'ailleurs, il était très mauvais élève. Il n'y a qu'en sport qu'il parvenait à faire des étincelles. Enfant, explique-t-il sans rire, j'étais un athlète exceptionnel. Mais aujourd'hui, là où Woody Allen continue de briller, c'est avant tout dans le regard qu'il porte sur le monde. Un regard corrosif, mais non dénué de facéties. Notamment sur la résurgence de l'antisémitisme. Les juifs sont une cible facile car ils sont peu nombreux, dit-il. Mais s'il n'y avait plus un seul juif sur Terre, on trouverait une autre minorité à persécuter. Et si toutes les minorités étaient éliminées, les bruns se retourneraient contre les blonds, les droitiers contre les gauchers. Et le réalisateur ajoute, fataliste, que l'homme n'est pas à l'évidence la plus noble des espèces.
Et il commente également la politique américaine.
Il commente et il pronostique l'échec de Donald Trump, qu'il connaît pour l'avoir fait tourner dans Celebrity. Il essuiera, prédit-il, la défaite la plus cuisante qu'un républicain ait jamais connue, et ceci quel que soit son adversaire démocrate, Hillary Clinton, Bernie Sanders, ou bien ma mère. Et tant pis si sa mère est morte il y a plus de 10 ans. Et puis bien sûr, Woody Allen parle de cinéma, un cinéma qu'il juge globalement de moins en moins bon. Et pourquoi donc certains de ses films ont-ils nettement plus de succès en France qu'aux États-Unis? Ma théorie, dit-il, c'est qu'il gagne à être traduit dans une autre langue. Les gens, visiblement, ne se rendent pas compte de leurs défauts. Et pense-t-il continuer longtemps à ce rythme effréné d'un long métrage par an, un film par an? Mais que faire d'autre, répond-il. La vie est une tragédie. Réaliser des films est la seule distraction que j'ai trouvée pour la supporter. Pour supporter la vie, la tragédie de la vie, d'autres ont cependant des remèdes autres moins glorieux. Fumer, par exemple. Les femmes de plus en plus et de plus en plus jeunes. Et nombreuses sont celles qui continuent à fumer même lorsqu'elles se savent enceintes, ce qui est très mauvais. Or, pour y remédier, Le Parisien nous explique ce matin l'initiative que viennent de prendre 16 maternités de France, offrir des bons d'achat pour convaincre les futures mères d'arrêter de fumer.
La carotte contre la clope, titre Le Quotidien.
Un total de 400 futures mamans seront recrutées, des volontaires majeurs qui doivent être enceintes de moins de 4 mois et demi et fumer un minimum de 5 cigarettes par jour. Elles seront ensuite reçues par un tabacologue 5 fois jusqu'à l'accouchement. Et à chacune de ces visites, elles recevront donc 20 euros en bon d'achat. Une incitation au sevrage qui sera du reste doublée pour la moitié d'entre elles, choisie de façon aléatoire. 20 euros de bons supplémentaires en récompense de leur mois passé sans cigarette. Selon le journal, une femme enceinte participant à cette étude dès le début de sa grossesse pourrait recevoir au total l'équivalent de 300 euros. Alors certains penseront peut-être que l'aspect vénal des choses est un petit peu dérangeant, mais c'est une méthode qui fonctionne. Déjà testée par une étude, par une équipe médicale au Royaume-Uni, elle a montré des résultats 2 fois plus efficaces que les méthodes traditionnelles, autrement dit sans bon d'achat. Sachant, mais cela va sans dire, que ces bons d'achat ne seront pas valables pour s'acheter ni de l'alcool, ni des clopes.
D'autres histoires d'argent à lire dans Le Parisien.
L'argent pour un déménagement, c'est le sujet central du journal. Faites jouer la concurrence, lance le titre à la une. Avec l'arrivée des beaux jours, nous entrons dans la grande saison des déménagements d'ici le mois de septembre. 1,5 million de Français vont changer de domicile. Premier conseil, s'y prendre au moins 2 mois à l'avance. Deuxième conseil, éviter les annonces qui pullulent dans la presse avec des numéros qui commencent par 06. Un patron qui décide de renoncer à son salaire, on ne voit pas ça tous les jours, c'est même du jamais vu. Si l'on en croit le journal, Gérard Mestrallet, l'historique ex-patron d'Engie, anciennement GDF Suez, a renoncé à sa rémunération annuelle de 350 000 euros lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui s'est tenue mardi dernier. Une rémunération qu'il devait recevoir au titre de ses nouvelles fonctions de président du conseil d'administration. Il y renonce, il renonce aux 350 000 euros annuels. c'est une surprise. Et puis, troisième histoire d'argent, mais celle-ci fait polémique, c'est la nomination envisagée de Jean-Paul Huchon à la tête de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un poste que lui a promis son ami Manuel Valls, ainsi que le révélait Le Monde il y a quelques jours, à 70 ans, l'ancien patron PS de la région Île-de-France toucherait pas loin de 150 000 euros bruts par an. Et oui, je peux encore servir, se réjouit-il dans Le Parisien, précisant qu'à ce poste, il sera indéboulonnable pendant 6 ans. Du reste, les critiques de ceux qui s'étonnent d'une telle générosité, il les balait d'une phrase. En politique, j'ai croisé tellement de traîtres et de médiocres, et tellement de connards. Les connards se reconnaîtront.
À la rubrique politique, on relèvera aussi les compliments de Ségolène Royal à l'adresse d'Emmanuel Macron.
Le parallèle entre nous est assez juste, dit-elle. Je voulais escalader en haut de la montagne, et lui, aujourd'hui, il est en marche. Et la ministre de l'écologie de reconnaître également des similitudes entre son ascension de l'époque 2007, et celle de Macron aujourd'hui. Mais Macron, jusqu'où ira-t-il, s'interroge le Figaro, alors que certains de ses amis le pressent de se déclarer à la présidentielle. Le ministre de l'économie prononcera demain un discours lors des fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans. Officiellement, c'est pour ne pas laisser cette grande figure de la France exclusivement à l'extrême droite, mais parler de République. C'est aussi pour lui une manière de sortir de son champ d'action et de montrer donc qu'il peut parler d'autre chose que d'économie. Et puis à droite, autre question, Michèle Alliot-Marie sera-t-elle candidate à la primaire l'automne prochain? Peu probable, si l'on en croit cet écho pioché dans Le Point, l'ancienne ministre aurait toutes les difficultés du monde à obtenir les 20 parrainages de parlementaires nécessaires pour se présenter. Confidence dépitée de son compagnon Patrick Ollier, député des Hauts-de-Seine. On n'a personne au Sénat, comprendre, pas un sénateur pour soutenir Michèle Alliot-Marie. Visiblement, c'est mal barré. En revanche, pour Sadiq Khan, tout s'est donc bien passé, très bien passé. Il est le nouveau maire de Londres et ce matin, dans la presse française, tout le monde lui dit « I love you ».
Et la presse qui évoque une belle leçon à l'Occident.
En remportant la mairie de Londres, il vient de donner une belle leçon à l'Occident sur l'intégration des migrants, écrit en effet Jean-Michel Servant du Midi Libre. Sadiq Khan, qui incarne l'exemplarité d'une intégration réussie, relève dans la Charente Libre Dominique Garraud, pour qui ce vote est exemplaire pour le reste d'une Europe tentée par les solutions extrêmes contre l'immigration en Angleterre en général et à Londres en particulier. On s'est peu soucié de la religion de cet homme, se réjouit Jean-Marc Chevauchier du courrier Picard. Sadiq Khan a été élu, figurez-vous, sur son programme, salue-t-il, et c'est un événement. Reconnaît pour sa part Jean Levallois de la presse de la Manche, un événement surtout pour nous, Français, puisque le vainqueur est un homme issu de l'immigration, assène-t-il, avant d'espérer que cette élection londonienne puisse inciter à privilégier les qualités humaines des candidats, plus que leur bulletin de naissance ou leur appartenance à une communauté ethnique ou religieuse. Une toute autre info, nettement moins réjouissante, venue de l'étranger, et en l'occurrence de Corée du Nord, il y a des signes que Pyongyang préparerait un nouvel essai nucléaire. C'est du moins ce qu'ont assuré il y a quelques heures des experts américano-coréens.
À propos d'experts, la presse depuis quelques mois ne cesse de s'interroger sur ceux qui se prétendent experts en terrorisme.
De faux experts du djihadisme, a-t-on pu lire dans les inrocks des squatteurs de JT qui parlent à tort et à travers, a-t-on lu dans Télérama, tandis que le Figaro dénonçait rien moins que de dangereux imposteurs. Cette semaine, nouvelle salve avec l'enquête d'Olivier Tosquer dans Téléops, la face cachée des consultants, revue de détail des casseroles de ces spécialistes autoproclamés de l'islam, qui dès qu'il y a des attentats sont dépêchés par les télés afin de meubler l'antenne. Alors certes, il en est qui ont désormais totalement disparu des écrans, mais les CV des consultants en terrorisme utilisés par les médias montrent parfois que leur seule spécialité, c'est de faire parler d'eux. En réalité, les véritables connaisseurs du sujet ont pour habitude de refuser les interviews à chaud sur les plateaux, par prudence et souci de rigueur, et c'est la raison pour laquelle les chaînes doivent donc se rabattre sur du second choix, voire sur des escrocs. Escrocs, mais pas trop, pour paraphraser Woody Allen, lequel montra donc sur les marches du Palais des Festivals le soir de l'ouverture mercredi à Cannes son film est hors compétition, dès lors pas de prix en perspective. Mais pour les autres, ça se passe comment et comment se déroulent les délibérations? Et quel est l'avis des jurés du plus prestigieux rendez-vous de cinéma mondial? Lire la formidable enquête de Vanessa Schneider dans M, le magazine du monde. Elle a recueilli les confidences d'anciens jurés et ce qu'elle raconte raconte est passionnant. 15 jours durant, ils vivent en vase clos, enchaînant les films, les dîners, les montées des marches. Une bulle cinéphile version luxe, dont les anciens membres du jury de Cannes gardent un souvenir émerveillé. Ils sont chouchoutés, ils sont choyés, ils sont surprotégés, mais émerveillés pas toujours. Confidence de Jean Rochefort, il a tout détesté, mais tous racontent qu'au bout d'un certain temps, le temps est long. Après plusieurs jours de projection intensive, la fatigue s'installe pendant certains films trop longs. Les jurés s'entendent même pour s'endormir tour à tour et raconter ensuite aux autres ce qu'ils ont loupé. On rêverait que Woody Allen se serve de cette séquence pour le scénario de son prochain film.
C'est lui ça qui joue, c'est lui.
Oui. Midnight in Paris.
Midnight in Paris, oui.
Avec Léa Seydoux.
Moi, je l'avais vu sur scène une fois au Châtelet.
La vie est une tragédie. Tout est dit.
Ça vous va bien.
Ah, ça me plaît beaucoup, ça.
Vous aimez. Ça, vous avez un côté Woody Allen, hein, Pierre Weck. C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.